et on plonge dans le neveu. Et quel plaisir, quel plaisir. D'abord, sur la séance d'aujourd'hui, pour moi, cette cinquième séance, elle inaugure le dernier moment du semestre par rapport à ce qu'on a déjà fait, au sens où là, on plonge dans le passé. C'est le premier texte non contemporain de ce semestre. Le passé, pour l'instant, on n'en a observé que les explosions dans le présent, pour reprendre la formule de Cadio qui nous accompagne en fait depuis le début. On s'est intéressé à la manière dont le passé explose dans le présent, depuis Michon, Quignard, Minard, Cadio. Bah, cette fois, le passé, on y est. Le Neveu de Rameau, c'est un texte du 18e. Et pourtant, il illustre bien ces allers-retours dans la chronologie qui, à mon sens, font l'histoire littéraire. Je crois pas que l'histoire littéraire soit une histoire linéaire. Elle est faite de bonds permanents du passé dans le présent et du présent dans le passé. D'abord parce que le neveu a une histoire de publication très complexe. Il n'est pas du tout sorti au moment où il a été écrit. Il a été écrit sur plus de 20 ans. Et après, il est passé par l'Allemagne. C'est Goethe qui l'a lu en allemand. Il a plus ou moins été traduit de l'allemand au français pour la première version éditée en français, avant d'être retrouvé sous forme manuscrite à la fin du 19e. Bon, généralement, ça m'intéresse pas du tout, ces histoires-là, mais je trouve que pour le neveu de Rameau, c'est marrant, parce que le destin matériel du texte ressemble à ce qui est dit dans le contenu du texte. Voilà, donc c'est un texte qui est devenu pleinement lisible qu'à la fin du 19e. Du coup, il y a déjà une espèce d'anachronisme dans les conditions mêmes de sa lecture. Mais le plus gros anachronisme, il est produit par le contenu même du texte, et pas par l'objet matériel, les problèmes de publication. Il est produit, cet anachronisme, par l'effet de modernité stupéfiant de l'écriture du neveu de Rameau. Où le mélange de l'oral et de l'écrit, du dialogue et du récit, et même de la langue et de la musique, bah, ça ressemble déjà à du Cadio. C'est étonnant. C'est très étonnant. Cadio cherche ce point presque impossible entre le roman, le théâtre et la poésie. Un roman qui se raconterait par la voix, qui n'aurait plus besoin de narrateur, ou alors un roman où le narrateur et les personnages seraient complètement confondus. Il cherche un texte de théâtre qui serait aussi puissant qu'un roman en termes de polyphonie, en termes d'évocation diégétique. Il cherche un texte qui serait aussi puissant qu'un poème. Et en fait, Diderot est déjà dans cette recherche. Et d'une façon à laquelle on ne s'attend pas forcément de la part de l'auteur de l'encyclopédie. Je vais y retenir. Donc autant dans Fairy Queen, le passé explose dans le présent, autant dans le neveu de Rameau, c'est comme si le présent était encapsulé dans le passé. Il y a Cadio qui est prêt à éclore dans Diderot. Toujours à l'échelle du cycle de ce semestre, ça m'intéressait de mettre le neveu dans cette position aussi, parce qu'il prépare notre lecture du texte d'Erasme, sur lequel on fermera le cycle, parce qu'il nous met en présence d'un personnage qui hérite directement des bouffons et des fous de la Renaissance. Et c'est précisément ces personnages-là dont Erasme, le sage de Rotterdam, a laissé une des figures les plus exemplaires, quoi, avec son éloge de la folie. Comme souvent avec les textes littéraires, il y a des problèmes qu'il faut surmonter pour commencer à vraiment lire. Le problème principal du neveu, c'est le nom de son auteur, c'est Diderot. Pourquoi ? Parce que Diderot, c'est un auteur patrimonial. C'est une espèce de statue. Il n'est pas au Panthéon, parce que son corps a subi, c'est pareil, des histoires pas possibles. Il pourra jamais être comme Rousseau, par exemple, qui est panthéonisé. On ne sait pas où est le corps de Diderot. Il a disparu pendant la Révolution. Mais c'est bien la seule chose qui n'est pas patrimoniale dans le nom de Diderot, parce que sinon, c'est un auteur, voilà, que l'histoire littéraire a transformé en socle de notre savoir, mais aussi de notre politique, par son rôle dans ce mouvement complexe, pas forcément unifié, mais très riche, qu'on appelle les Lumières. Diderot, c'est l'encyclopédiste qui veut faire la somme des connaissances sur l'homme. Dans cette perspective qui est à la fois contestataire et optimiste par rapport au pouvoir de la raison et de l'humour dans ce qu'on présentait à l'époque comme la dissipation des forces obscures, que ces forces d'ailleurs soient dans nos têtes ou dans nos palais. L'ambition des gens des Lumières, c'est à la fois de transformer le pouvoir et de transformer la psyché, d'éloigner l'obscurité dans ces deux domaines. Et pour eux, c'est complètement lié par l'éducation, par exemple. L'éducation, c'est ce qui allume la lumière, et qui du coup rend lucide par rapport au destin politique qu'on veut choisir. En gros, l'éducation, c'est ce qui permet aux gens de voter en connaissance de cause. Donc Diderot, c'est ça, c'est cette espèce de porteur de civilisation, tel qu'il est transmis par l'institution. Et du coup, en 2013, on lui a rendu l'hommage qui est dû aux grandes figures nationales à l'occasion du tricentenaire de sa naissance. Il y a eu par exemple une très belle expo passée à Montpellier du Diderot critique d'art. Donc ils ont rassemblé plein d'œuvres dont il avait parlé, 80 toiles dont il avait parlé, et qui étaient présentées avec les textes que Diderot avait écrits dessus. Et c'est là une des occasions de saisir à quel point Diderot était génial en critique d'art. Et du coup, derrière les gros volumes de l'encyclopédie, derrière ce socle de statues qui semble fait avec les gros livres de l'encyclopédie, On oublie que Diderot a touché à tout, et en laissant souvent une empreinte définitive à l'endroit où il touchait. C'était donc un critique d'art extrêmement fin, mais c'était aussi un homme de théâtre qui a posé les bases d'un nouveau genre, rien que ça, le drame bourgeois. C'était un romancier, c'était un vulgarisateur de science, c'était un métaphysicien, c'était un conteur, donc ce qu'on appelle un polygraphe. Et avec le neveu de Rameau, on rencontre justement Diderot descendu de son socle. Et c'est une bonne nouvelle qu'il soit descendu du socle, parce qu'on le rencontre dans toute sa vivacité et aussi dans toute sa complexité. C'est comme si l'encyclopédiste, d'ailleurs il écrit le neveu de Rameau, à un moment il en a marre de l'encyclopédie, ça fait 20 ans qu'il est dessus, il a eu plein de problèmes d'éditeur, il a eu plein de trahisons, il s'est fâché avec Rousseau, il a été largué par son éditeur, il y a plein de problèmes qui se sont accumulés, et hop, il balance le neveu de Rameau, une première version. On dirait qu'il donne un coup de pied dans la fourmilière des classements, des savoirs bien rangés, là. Et il fait entendre une parole fluide, où tout communique. C'est un peu le modèle encyclopédique que va développer beaucoup plus tard Deleuze avec Guattari, quoi, dans Mille Plateaux. Dans Mille Plateaux, tous les savoirs communiquent, il n'y a pas vraiment de classement rationnel strict. Et j'ai souvent pensé au neveu de Rameau en lisant Mille Plateaux, j'ai souvent pensé à Mille Plateaux en lisant Neveu de Rameau. Il y a cette idée qu'il n'y a pas de frontière entre les savoirs, que ça coule, que ça circule. Et puis il y a autre chose qui fait que Diderot est inattendu dans Neveu de Rameau, c'est qu'il fait entendre, il fait parler à travers Rameau, des forces obscures, et pas toujours tournées vers le progrès. L'un des chevaux de bataille du neveu de Rameau, c'est de dire « Je veux pas de votre idéal philosophique. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux rester dans le vice. Je veux rester, je veux croupir dans cette espèce de milieu parigot, marigot, quoi. » Ça n'a jamais été aussi proche phonétiquement parigot et marigot que dans le neveu. Il vit dans une espèce de faune, de parasite assez détestable, et il dit « J'aime ça. Je veux pas autre chose. Je peux pas, je veux pas. » Donc c'est une espèce d'obstacle au travail de civilisation et d'éclaircissement des lumières. Le neveu n'en veut pas. Neveu, neveu, la lumière. Donc qu'est-ce qu'il fait Diderot? Il faut du courage pour ça. Hein, je veux dire, quel philosophe qui croit à son système, sans parler système, à sa pensée, va accepter de mettre en scène un adversaire en montrant que cet adversaire n'a pas tort. Parce que c'est ça qui est fort. Ce neveu, il est sympathique, mais en plus, il nous rend son système de vie compréhensible, mais pas plus infondé qu'autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle l'altérité, en anthropologie ou en sciences humaines en général. C'est la mise en scène, le neveu de Rameau, d'une altérité à la philosophie des Lumières. Bon, c'est pas un réactionnaire hein, non plus, le neveu. C'est pas un type qui dit « oui, le roi, la religion ». Non, il dit juste « je vis dans le vice, mais ça me déplaît pas ». Et ça... c'est à la fois génial, cette altérité, elle est préoccupante, elle est dynamisante pour la pensée de Diderot lui-même. Ça rend ce texte extrêmement plein de rebondissements, très tonique, très pétillant, quoi. Même dans les moments où il est dur et déprimé, parce que Rameau, il a des espèces de moments de déprime. Il s'écrit sur une courbe maniaco-dépressive, le neveu de Rameau. Il y a cette espèce de moment où il est crevé, il faut qu'il boive 2-3 bières pour que la discussion reprenne, et puis là, il devient génial et bondissant. Voilà, donc le neveu nous fait lire le Diderot génial et pas le Diderot patrimonial. C'est cette chance-là que nous offre le neveu de Rameau. Et le Diderot qui accepte cette mise en scène de l'altérité grâce à ce genre extrêmement intéressant et sur lequel je voudrais qu'on s'attarde d'abord, qui est le genre du dialogue, puisque c'est bien un genre. Le dialogue, on l'a oublié, c'est un genre littéraire au même titre que le roman, la poésie, le théâtre. Ça pourrait ressembler à un manuscrit de théâtre, le neveu de Rameau, ça a souvent été adapté sur scène, ce qui est vraiment pas facile d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas du théâtre, c'est un dialogue. Un dialogue comme les dialogues de Platon, qui sont les autres formes de dialogue les plus connues généralement. C'est une forme qui est plus pratiquée du tout aujourd'hui, pour des raisons qu'il faudrait creuser. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça m'intéresserait pas un jour d'écrire un dialogue. Et en tout cas, voilà, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps à s'intéresser à ce genre-là, parce qu'il est passionnant. Le genre du dialogue, et en l'occurrence, dans le cas du neveu de Rameau, un dialogue satirique. Bon, je commence toujours par mes résumés idiots. Ici, c'est particulièrement idiot, puisqu'il y a presque rien à dire. C'est quoi l'histoire du neveu de Rameau? C'est facile à dire et c'est très frustrant. Hein. Au café de la Régence, près du Palais Royal, probablement un jour de pluie, puisque le narrateur commence par nous dire qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, je vais au Palais Royal, mais quand il fait moche, je vais au café de la Régence. Donc là, comme c'est au café de la Régence, on en déduit qu'il fait moche. On assiste à une demi-heure de discussion. Ça, c'est ce qu'il nous est dit au départ. Je sors à 17h, et à la fin, Rameau dit « Oulala, il est 17h30, il faut que j'aille, je sais plus où ». Donc c'est censé durer une demi-heure. En fait, c'est impossible que ça dure une demi-heure, mais voilà, c'est ça l'illusion narrative. Une demi-heure de discussion à bâton rompu, donc, entre moi, c'est-à-dire un Diderot qui est caricaturé, trop simplifié dans sa vertu pour être autobiographique. Diderot n'était pas vertueux comme son moi, là, ou pas seulement. Et un lui qui renvoie au personnage historique de Jean-François Rameau, le neveu, effectivement, de Jean-Philippe Rameau, le grand compositeur, mais qui est un individu qui, s'il a historiquement existé, est ici transformé en personnage. On va voir que c'est pas un personnage réaliste, quoi. Et c'est pas la première fois que Diderot fait ça. Il adore mettre en scène des personnages qui ont des noms renvoyant à des personnes réelles, mais qui sont pourtant bien des personnages. C'est ce qu'il a fait dans son autre grand dialogue, enfin cette autre grande série de dialogues, s'il y en a trois, qui est rassemblée sous le titre du rêve de D'Alembert, le rêve de D'Alembert. Dans le rêve de D'Alembert, il y a D'Alembert, qui était le collègue de Diderot pendant longtemps, son ami aussi, ils sont fâchés, tout ça, mais c'est celui avec qui il a fait l'encyclopédie. C'était un mathématicien assez génial. Et dans le rêve de D'Alembert, c'est pas vraiment D'Alembert. Il y a aussi le médecin de D'Alembert qui est mis en scène, qui s'appelait Bordeux. Il y a Mademoiselle de l'Espinasse qui était plus ou moins l'amante de D'Alembert, mais il se passait pas grand-chose. Et c'est pas Mademoiselle de l'Espinasse non plus. C'est des fonctions, les personnages. C'est pas des personnages réalistes. Et donc Diderot aime bien faire ça, du coup il se fâche avec les gens généralement. Parce qu'il disait, mais attends, mais dans le dialogue, c'est pas moi là. Donc D'Alembert s'est fâché avec Diderot à l'occasion du rêve de D'Alembert. Donc Diderot aime bien faire ça. On va voir un peu à quoi ça sert plus loin. En tout cas, par rapport à mon histoire de résumé idiot, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, puisqu'il n'y a pas d'histoire, comme dans un roman, même s'il se passe des tas de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dont on ne peut pas vraiment faire le résumé ? Il se passe une aventure de la pensée, mais aussi de la voix, qui s'approche de la musique. C'est pas un pur dialogue intellectuel. Il est question de problèmes intellectuels passionnants, d'ailleurs, très souvent. On a d'autres, des problèmes qui sont éloignés de nous, qui nous semblent moins parlants, mais il y en a certains qui sont nombreux, qui sont vraiment intéressants. Mais c'est pas juste de la pensée. Il y a aussi de la voix, vraiment. On entend la voix, surtout dans le cas de lui. Diderot utilise lui pour faire entendre une voix où la langue et la musique se rapprochent formidablement. C'est une des premières occasions pour moi dans l'histoire de la littérature où voilà, on se tient à ce point passionnant, troublant, où la musique et la langue communiquent. C'est un point qu'on va retrouver ensuite avec d'autres armes stylistiques chez Céline, qui est un auteur dont j'ai parlé ici, parce que je crois que c'est le maître, c'est l'un des maîtres de cette jonction entre la musique et le langage. Ce dialogue, il offre en fait à Diderot la possibilité d'un dédoublement de soi, où en fait Diderot ne se résume pas à moi, Diderot inonde tout le texte de ses propres paradoxes, de ses oppositions, les disputes entre moi et lui. C'est les disputes à l'intérieur de Diderot, qui n'arrivent pas à trancher sur un certain nombre de problèmes qui ne sont pas juste des problèmes intellectuels, mais des problèmes dans la vie. Et c'est là une matière, cette espèce de dialogue paradoxal, de réflexion sur les paradoxes avec des désaccords, des discussions, c'est là une matière à laquelle le genre du dialogue donne accès, puisqu'il s'agit bien d'un genre. Alors techniquement, j'essaierai de ne pas dire Diderot, je dirais moi, quand il s'agit du personnage. Quand je dirais Diderot, c'est vraiment en tant qu'auteur du texte. Et je dirais JF et JP pour distinguer le neveu et l'oncle, Rameau. Parce que JF, c'est Jean-François, le neveu, et JP, c'est Jean-Philippe, l'oncle, le grand compositeur. C'est quoi ce genre du dialogue ? C'est une tradition oubliée, vraiment oubliée, et depuis pas longtemps, hein. Deux siècles et demi. Si vous me disiez l'ode pindarique, ça fait longtemps que ça a disparu, oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne fait plus des odes pindariques. Mais des dialogues, ça fait pas si longtemps. On peut encore toucher du doigt le moment où on écrivait des trucs comme ça. Alors c'est quoi cette tradition ? Elle naît avec Platon, c'est la grande figure qui commence à illustrer le genre du dialogue. Et avec quelle puissance et quel génie, quoi. Même si je ne suis pas platonicien, je ne peux que reconnaître la force de ce dispositif de discussion où il y a Socrate qui parle, qui échange avec des interlocuteurs. Le dialogue existait avant Platon, mais Platon lui donne vraiment ses lettres de noblesse. Plus tard, et d'une façon dont Diderot hérite peut-être plus directement, il y a un auteur un peu oublié aujourd'hui, mais très très piquant, très intéressant, qui s'appelle Lucien de Samosate. Lucien de Samosate, un auteur grec, enfin de la sphère latin grec, quoi. Il écrivait en grec, mais il a vécu en gros de 120 à 180 après Jésus-Christ, donc plutôt sous la sphère de l'Empire romain. C'est un auteur excellent, passionnant, qui a écrit des tas de trucs très drôles, un éloge de la calvitie, un éloge de la mouche, voilà, plein d'éloges comme ça, du petit, du paradoxal. Et l'œuvre la plus importante de son corpus, enfin la plus célèbre en tout cas, c'est Les Dialogues des Morts. Il a écrit un bouquin très drôle aussi qui s'appelle Philosophes à vendre. Et c'est des philosophes qui sont à la foire en fait, comme les esclaves, et qui peuvent parler de ci, moi je peux démontrer ça, achetez-moi quoi. Voilà, donc là vous sentez le tour satirique que prennent ces dialogues, je vais revenir sur la notion de satire, mais c'est une grosse différence par rapport à la tradition de Platon quoi. Platon, il y a de l'humour dans les dialogues de Platon. C'est pas du tout un privé d'humour. Socrate, c'est un personnage qui a un côté burlesque, un côté comique. Il y a des moments où il prend des postures comme ça, un peu comme un yogi. Il est laid, enfin, il y a un caractère comique chez Socrate que Platon construit. Mais il n'y a pas vraiment de satire. C'est une variété d'humour particulière, la satire. Je vais y revenir. Pour continuer à la serpe, mon histoire du dialogue, pourquoi est-ce que Diderot peut écrire des dialogues au XVIIIe siècle alors qu'il n'est pas un auteur antique? Parce que, à la Renaissance, il y a un énorme travail qui a été fait par un certain nombre de lettrés qui ont appris le grec, appris le latin, appris l'hébreu, des langues qu'on pratiquait presque plus, et qui ont redécouvert les textes de la tradition antique, les dialogues antiques, et qui ont imité les dialogues antiques, puisque c'est le grand truc de la Renaissance, c'est d'essayer de faire exploser le passé dans le présent, quoi. De faire ressurgir des colonnes grecques dans l'architecture et de faire réentendre des textes grecs et latins et hébreux qu'on arrive à saisir. Le tiers-livre de Rabelais est, par exemple, extrêmement influencé par sa redécouverte des dialogues antiques. Le tiers-livre, c'est peut-être le plus marrant des bouquins de Rabelais, quoi qu'ils soient quand même tous assez drôles. Mais c'est parce que c'est une histoire toute bête, quoi. C'est Panurge qui veut savoir s'il doit se marier ou pas. Et du coup, il va consulter tous les spécialistes de la question du mariage. Je vous ai déjà parlé un petit peu du tiers-livre. Mais voilà, c'est un dispositif de dialogue, c'est un roman plutôt, le tiers-livre, mais c'est un roman qui ressemble très fort à un dialogue de l'Antiquité. Donc c'est un des textes de la Renaissance les plus célèbres qui hérite de cette tradition du dialogue. Je cavale, mais les Lumières, l'époque des Lumières, 2 siècles après, réinvestit la tradition gréco-latine. On ne peut pas comprendre même le code napoléonien sans l'intérêt pour les textes latins, les textes juridiques latins. On ne peut pas comprendre la fondation de la République sans l'intérêt pour les textes latins. Et donc, il retrouve, par l'intermédiaire de la Renaissance, ou en plongeant directement dans les manuscrits, cette forme antique qu'est le dialogue. Donc, Diderot en a écrit beaucoup. Le neveu de Rameau, d'ailleurs, s'appelle Satire seconde, parce qu'il y a eu une Satire première, qui est beaucoup moins intéressante, mais qui était déjà un dialogue. C'est le sous-titre du neveu, Satire seconde. Les deux autres grands dialogues de Diderot, c'est donc Le rêve de D'Alembert, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une profession de foi matérialiste. Je vais revenir sur le mot matérialiste, qui va être très important pour nous aujourd'hui. Ça consiste pas à dire qu'il n'y a rien de mieux qu'une bagnole et une télé. Ça consiste à dire qu'on peut se penser dans l'univers sans avoir besoin de Dieu. Qu'on peut se contenter de la matière. Je vous dis ça tout de suite, puis on creusera tout à l'heure. Un autre grand dialogue de Diderot, c'est ce qu'il a appelé les entretiens sur le fils naturel. Le fils naturel, c'est une pièce qu'il a écrite. Et il a fait un dialogue à propos de cette pièce. Et dans ce dialogue, il pose les bases esthétiques d'un genre nouveau qui a complètement influencé tout le théâtre contemporain et qui donc s'appelle le drame bourgeois, qui était une espèce de tentative de synthèse entre la tragédie et la comédie. Il n'y a pas de théâtre contemporain, il n'y a pas de Villard, par exemple, ou il n'y a pas de Claudel sans le drame bourgeois. Donc le dialogue, c'est un genre qui ressemble à du théâtre, bien sûr. Il y a le même code graphique, il y a des interlocuteurs qui sont identifiés par des noms, il y a des tirets, et après il y a leur réplique. Sauf qu'il y a cette arme géniale aussi de la narration. Il y a un narrateur. Moi, c'est aussi le narrateur. C'est un interlocuteur et c'est le narrateur. Et ça, dans le texte de théâtre, c'est pas possible. Donc le dialogue n'a pas forcément besoin d'une mise en scène pour exister pleinement. C'est ça la grosse différence avec le texte de théâtre. C'est une autre forme d'oralité dans l'écriture. Alors, à l'intérieur de ce genre, dont vous commencez peut-être à vous faire une idée plus précise, il y a tout un tas de sous-genres. Le dialogue a connu une longue carrière dans le domaine pédagogique, parce que c'était très très pratique pour faire assimiler des trucs à des gens, de faire un dialogue où il y a un maître qui enseigne à un élève. Du coup, l'apprenant, comme on dit aujourd'hui, il s'identifie à l'élève et il reçoit le contenu du maître d'une façon beaucoup plus vivante que si c'était juste un traité où on parle de façon anonyme. Donc le dialogue a beaucoup servi à ça, et il y a encore cette dimension pédagogique dans le neveu de Rameau, où on ne sait pas qui est le pédagogue de l'autre. C'est ça la grande richesse. Moi, aimerais bien convertir son neveu à la vertu et tout ça. Et en même temps, il est quand même très séduit par cette espèce de dont l'existence vicieuse est en même temps très vivante et pleine d'un enthousiasme, on verra, que lui, philosophe, n'atteindra jamais. Donc, dialogue pédagogique, c'est un des sous-genres du dialogue. Le dialogue philosophique, c'est un des grands sous-genres du dialogue. Ici, c'est donc un dialogue satirique. Je vais m'attarder un peu dessus. Satirique. Donc, je disais que c'était une variété spéciale d'humour. Oui, sur 2 points, au moins. Que comme ça j'aperçois. L'humour, ici, dans la satire, il sert à la critique. Il sert pas juste à rire, il sert à critiquer. C'est-à-dire remettre en question, relativiser. Et il n'hésite pas, dans cette remise en question, à aller jusqu'au ridicule. Ça, c'est la deuxième spécificité de cet humour. Donc c'est un humour avec de la violence dedans. Alors c'est pas une violence physique, bien sûr, mais c'est quand même une violence. La satire, c'est pas vraiment un genre, parce qu'on trouve de la satire un peu dans tous les genres. Mais ça s'est historiquement développé à partir de la comédie latine. Les premières formes de satire bien reconnues, bien connues, bien critiquées, bien passées à la moulinette, c'est dans la comédie latine. Qui est une comédie qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, à part peut-être les grenouilles, par exemple, parce que c'est un texte rigolo. Mais la comédie latine, c'était un genre extrêmement florissant, quoi. Et très populaire. Et Diderot hérite de ce genre très clairement dans Le neveu de Rameau. D'abord parce que le neveu commence par un exergue en latin. Orat lib de satire set. Bon, donc il y a le mot satire qui apparaît. Et cet orat dont il est question, c'est Horatio, qui est connu chez nous, en France, comme Horace. C'est Horace. Horace, un des auteurs très prolifiques de la comédie latine. L'exergue, ça veut dire « il est né sous les pires auspices météorologiques ». Ça, c'est intéressant, on va voir. L'histoire de météo, le changement. La météo, c'est un bon exemple pour Diderot des caractéristiques de la matière, en fait. La matière, c'est quelque chose qui change. Contrairement à Dieu, qui vit dans l'inchangé, la matière, ça change tout le temps, car regardez le ciel. Donc, c'est pas pour rien qu'il commence par ça. Bon, voilà, un premier signe très visible que Diderot s'inscrit dans la tradition de la satire, la citation d'Horace. Et en fait, même le personnage du neveu, on n'a pas forcément besoin de savoir ça pour apprécier le neveu, mais c'est un fait, quand on regarde un petit peu en perspective, le personnage du neveu, il hérite d'un personnage type de la comédie latine, qui est le parasite. Le personnage de parasite. Si vous ouvrez des comédies de Plaute, de Terence, de Juvénal et d'Horace, par exemple, vous allez rencontrer plein de parasites, des personnages de parasites, des pique-assiettes, des types qui vivent aux dépens des autres, qui sont toujours géniaux dans l'art d'arriver à bouffer sans payer, quoi. Deux héritiers super intéressants du personnage du parasite, on les retrouve, ça me vient comme ça, là. Dans ce roman merveilleux de Tonino Benacquista qui s'appelle « Les morsures de l'aube ». Il y a deux parasites qui sont sortis de Plaute, mais à la sauce XXe siècle. C'est-à-dire que ces deux types qui sont au RSA, on dit le RMI à l'époque, ils décident, avec leur dernier versement du RMI, de s'acheter un costard et un abonnement au gymnasium. Donc, en fait, tous les soirs, ils vont au vernissage, en costard, et ils rentrent parce qu'ils ont une flûte de champagne. Ils ont toujours une flûte de champagne sur eux, en fait. Et donc, ils font mine d'avoir déjà été invités, d'être sortis avec la flûte, et de re-rentrer, quoi. Et du coup, ils rentrent dans tous les vernissages. Ils n'en ont rien à foutre des expos, tout ça. Ils y vont juste pour les petits fours, quoi. Et du coup, ils vivent dans une espèce de faux luxe, alors que c'est des lumpen prolétaires, quoi. Donc, ils font ça toutes les nuits, et le jour, ils ont pris un abonnement au gymnasium, pas pour aller nager ou quoi, mais juste pour aller dormir sur les chaises longues, en fait. C'est l'endroit où ils se reposent. Donc, c'est le modèle du parasite aujourd'hui. C'est un personnage intéressant, quoi. C'est en fait un personnage de redistribution de la richesse. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Dans une société inégalitaire, après tout, parasite. Alors, le truc, c'est que dans le neveu, il n'y a pas que le personnage du neveu, comme parasite, qui est satirisé, qui est tourné en ridicule. C'est à la fois lui qui est ridicule et les gens dont il parle. Et les gens même à qui il parle, puisque moi est tourné en ridicule par le neveu. La satire a des cibles multiples. Alors, il y a un aspect dans le neveu de Rameau de référence au milieu dans lequel Diderot évoluait. Il y a plein de noms qui sont évoqués, qui peuvent être un peu chiants, un peu... Ça va, quoi. On a l'impression, par un moment, qu'il nous raconte un peu sa vie mondaine, en fait, Diderot, et les problèmes qu'il a. Donc, il est question d'un type chez qui, donc, le neveu va souvent manger, il se fait inviter, tout ça, qui s'appelle Bertin, qui est un représentant du camp ennemi de Diderot, qui était, en gros, mené par Choiseul. Je dis ça très vite, parce que ça m'intéresse pas du tout, en fait. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce que le neveu fait? Il se fait l'écho du camp ennemi de celui de Diderot, et, du coup, bah, Diderot nous fait lire... sous sa propre plume, des critiques de son camp à lui. Il se met en scène comme ridiculisé. Bon, ça commence à être plus intéressant déjà. Parce que généralement, dans un dialogue satirique, vous vous moquez de vos ennemis. Mais là, Diderot, il fait plus fort que ça, quoi. Il se moque de ses ennemis parce qu'il montre qu'ils vivent de façon vicieuse, et en même temps, il fait entendre la critique faite par les ennemis sur son propre camp. Bon, il y a plein de gens qui sont évoqués. Il y a comme ça un moment dans le texte qui me semble assez représentatif de ce truc-là. Je vous l'évoque, comme ça on peut passer à autre chose de plus intéressant. À un moment, le neveu dit, voilà, là où je vais bouffer, chez Bertin, il y a plein de gens très bien. J'oubliais les grands critiques de la littérature, l'avant-coureur, les petites affiches, l'année littéraire, l'observateur littéraire, le censeur hebdomadaire, toute la clique des feuillistes. Et là, il y a moi qui réponds. L'année littéraire, l'observateur littéraire, cela ne se peut. Il se déteste. Bon. Donc ça veut dire que là, il évoque des querelles de son milieu à lui. Il y a un aspect de presque d'étude ethnologique de ce petit milieu, quoi, dans le neveu de Rameau. Bon. Voilà. Diderot nous donne ça à lire à travers le neveu. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. L'idée, c'est que ça peut faire écran à la lecture du plus intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous le dis en passant. Il y a un aspect référentiel dans le dialogue. Il y a des personnages réels qui sont évoqués. Mais ça me paraît beaucoup plus intéressant d'insister sur cette mise en scène du point de vue de l'autre. Diderot ne fait pas que critiquer ses ennemis, il se laisse critiquer par ses ennemis, en fait. Il fait entendre la voix de ses ennemis sur lui-même. Et là, on va vers une caractéristique de la satire qui est beaucoup plus intéressante que la simple critique par le ridicule. Par la mise en scène de deux points de vue contradictoires, donc une altérité, comme je disais dans l'intro, on s'approche là du sens plus profond de la satire, qui est, étymologiquement, le sens de mélange. Satura, en latin, ça veut dire mélange. Et c'est bien ça qui se passe avec cette mise en scène de points de vue opposés. C'est des mélanges. Il y a deux points de vue qui se mélangent. Il n'y a pas qu'un point de vue pur. Il y a une satura. En fait, ce qui m'intéresse dans la satire, c'est la satura. C'est le sens étymologique. C'est le fait de revendiquer une esthétique impure. Et ça, c'est une tradition dans la satire, depuis le latin, depuis la comédie latine, le mélange du grotesque et du sublime. C'est une des caractéristiques de la satire. Mais là, dans le Neveu, on entend à la fois ces accents directement hérités de la comédie latine. Page 103, par exemple, il y a moi qui dis à lui « Je rêve à l'inégalité de votre ton, tantôt haut, tantôt bas. » Ça, ça pourrait être dans un dialogue de Plaute, dans une pièce de théâtre de Terence, « Tantôt haut, tantôt bas. » Donc ça, c'est un héritage direct, texto presque, de la comédie latine. Mais à quoi ça sert pour Diderot? À quoi ça lui sert de façon spécifique et à son époque? Disons que la bigarrure du Neveu, qui est à la fois sublime et grotesque, ça en fait un porte-parole idéal de la variété intellectuelle de Diderot. C'est à ça, c'est pour ça, d'abord, que l'impureté du personnage de comédie latine l'intéresse. C'est pas juste pour en faire une citation d'un genre passé, c'est parce que ça lui permet de faire entendre ses multiples points de vue d'hommes contemporains. Qui de mieux pour faire entendre cette multiplicité des points de vue qu'un personnage bigarré, qu'en l'occurrence il emprunte à la comédie. C'est le Neveu, un personnage mixte, pour une pensée touche à tout. Et je pense que si Diderot met une espèce de monstre social pour faire entendre sa pensée, c'est parce qu'il la trouve lui-même un peu monstrueuse, sa pensée. Il se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai dans la tête? C'est tellement multiple, il s'intéresse tellement à des tas de trucs. C'est un type qui s'en est voulu de rien avoir vraiment fini jusqu'à l'âge de 50 ans, quoi. Il n'avait pas vraiment, et d'ailleurs, il n'avait pas vraiment fini de texte à ce moment-là. Il avait lancé des tas de bouts de trucs, il avait fait des tas d'articles pour l'encyclopédie. Il traînait dans tous les salons, il parlait avec les scientifiques, il allait voir du théâtre, de la musique. Il était complètement un fût de tas de trucs, mais il n'avait pas l'impression d'aboutir. Donc, je crois que le Neveu, ça lui sert à ça aussi. Ça lui sert à dire, bon, d'accord, j'ai une pensée un peu monstrueuse, et ben, je vais faire parler un monstre pour qu'il traduise ma pensée. L'encyclopédie, d'une certaine façon, c'est une satura. C'est un truc mixte. Il y a plein de savoirs dans l'encyclopédie qui se rencontrent et qui se mélangent. Mais le mode de classement du savoir empêche les circulations. C'est classé par ordre alphabétique, il y a des tomes, c'est-à-dire littéralement des divisions. Le Neveu, ça permet à Diderot de rebrasser de nombreux thèmes de l'encyclopédie tout en modifiant en profondeur la manière de les traiter. Ils sont plus évoqués par chapitre, ils sont plus évoqués par ordre alphabétique. Ça se passe par la fluidité de la discussion à bâton rompu. Alors j'aimerais bien qu'on regarde d'un petit peu près comment ça se passe. Comment est-ce qu'on passe d'une idée à l'autre? Les thèmes qui sont abordés dans le Neveu, c'est encyclopédique, les questions dont ils traitent ensemble. Il est question de musique, de langage, de linguistique, hein, vraiment. Il est question de théâtre, il est question du génie et de l'espèce, il est question d'éducation, il est question de l'argent. C'est les grandes questions de l'époque, quoi. Il n'y a qu'une question qui n'est pas traitée directement ici, c'est la politique. Mais Diderot a toujours été prudent avec la politique parce qu'il a fait de la prison. Alors comment est-ce que ça se passe, la construction du dialogue et l'articulation de ces thèmes qui est tellement plus vivante et tellement plus fluide que dans sa présentation encyclopédique? Regardons page 48, c'est là où le dialogue commence. Il y a d'abord une espèce d'introduction narrative, et puis le Neveu arrive et il aborde moi. Donc il lui dit en gros, tiens, vous regardez les échecs. Il y a des types au café de la Régence. La discussion, ça commence sur quoi? Ça commence sur les échecs. Parce que à l'endroit où il se trouve, au café, il y a des tas de types qui poussent le bois, comme ils disent, qui jouent aux échecs, ou aux dames.
Et donc, le neveu dit, tiens, monsieur le philosophe, vous regardez les types qui jouent aux échecs? Oui, j'aime bien ça. J'aime bien voir les types qui jouent bien aux échecs. Et du coup, le neveu lui dit, ah bah, vous devez pas vous amuser souvent parce qu'ils sont presque tous nuls ici. Et moi réplique en disant, oui, c'est vrai, vous vous intéressez qu'aux hommes de génie. Puis là, d'un coup, ils se mettent à parler du génie. Mais ça dure pas longtemps. Moi dit, mais laissons cela. Hop. Il laisse tomber le thème. Il aborde le thème du génie, mais il bifurque. Bon, en fait, ils vont y revenir. Mais pour l'instant, laissons cela. À ce moment-là, il demande des nouvelles de la santé du neveu. Et apparemment, le neveu, ce jour-là, il est plutôt bien gras, bien joufflu. Et moi, lui en fait la remarque. Et le neveu répond en disant, bah oui, vous comprenez, en fait, il y a une espèce d'humeur que moi, je stocke, et dont mon oncle se vide. Parce qu'apparemment, Rameau, le compositeur, il était tout sec. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de communication de la Grèce entre l'oncle et le neveu, quoi. C'est déjà une vision matérialiste des choses, en fait. Une vision médicale, physiologique. Mais pour l'instant, c'est plutôt une espèce de blague. Et il y a une deuxième blague après, moi, lui dit... Et alors cet oncle, le voyez-vous quelquefois? Et le neveu répond, passez dans la rue. Je le vois passer dans la rue. Donc c'est pour dire que Rameau est en fait pas un type très sympa, quoi, le compositeur, l'oncle. Donc ils reviennent au thème du génie, vie à l'oncle. Revoilà notre thème du génie qui revient. Alors que moi avait dit, laissons cela. À travers le personnage de l'oncle, paf, ils reviennent à la question du génie. Et à ce moment-là, ils s'interrogent, qu'est-ce que c'est un génie, à quoi ça sert? Et il y a notamment, chez Diderot, ce truc difficile à avaler pour lui, en fait, que Rameau est un sale type. Donc c'est un grand compositeur, mais c'est un sale type. Et ça, ça veut dire quoi? Pour un philosophe, c'est dur à encaisser. Parce que pour un philosophe, le beau et le bien, c'est la même chose. Donc un type qui fait des beaux trucs, normalement, il faut qu'il fasse le bien aussi. Et en fait, Rameau, c'est un salaud, il est pas généreux du tout. Racine, apparemment, je sais plus quoi, après, ils se mettent à parler des travers de tous les grands bons hommes. Et puis, Diderot, enfin, moi, finit par dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est quand même des grands génies. Voilà, mais c'est pour vous dire que ce début-là, sous l'air de dire « Bon, oui, je vais un peu parler du génie, mais on laisse tomber, on parle de... Alors, comment ça va ? Putain, vous avez grossi Paf ! Ah ben, en fait, ils reviennent au génie. Ils reviennent au problème du génie. Donc, ça fonctionne comme ça, quoi. Ça se construit comme ça, par tressage, par abandon, reprise. Autrement dit, oui, il y a cette expression très parlante, je crois. « À propos de cet oncle, le voyez-vous quelquefois ?» L'expression « à propos », elle me semble très intéressante, là. Parce que le neveu est construit... très largement, sur la base de l'esprit d'à propos, ce qu'on appelle l'esprit d'à propos. Le fait de rebondir sur une idée pour l'amener ailleurs, en faire un développement. Ça, ça ressemble beaucoup à la musique, en fait. À la construction des grandes formes musicales. Avec une idée qui survient, qui est abandonnée, puis qui est reprise, développée, transformée. Ça ressemble à de la musique. Sauf que c'est très dur à faire dans le langage. Comment est-ce qu'il fait Diderot ? Là, Diderot l'écrivain, hein. Il arrive à injecter de la discussion du café de la Régence, autrement dit du café du commerce, dans l'écrit. Il arrive à mettre cette caractéristique de l'oralité qu'est l'esprit d'à propos dans de l'écrit. Il arrive à recueillir, à se brancher sur l'inventivité verbale qu'il entend dans la rue, qu'il entend autour de lui, partout. Il y a un rapport avec les brefs de comptoir. D'ailleurs, il y a des blagues qui sont des blagues de comptoir. Le neveu lui dit « c'est pas de la gloire, c'est du bouillon ». Ça, c'est le genre de truc qu'on peut entendre au café, quoi. C'est pas de la gloire, c'est du bouillon. Autre mode de construction important dans le neveu de Rameau, pour comprendre un peu comment un dialogue se construit, la contradiction. La contradiction, le paradoxe. C'est un dialogue, mais c'est pas un dialogue au sens un peu lénifiant et œcuménique aujourd'hui, comme quand on parle de réunion religieuse. Vous savez, oui, les musulmans ont parlé avec les chrétiens, c'est formidable, tout va très bien. Bah là, c'est un dialogue, mais au sens où ils se bastonnent, quoi. Ils sont pas d'accord. Il y a plein de moments où ils sont pas d'accord. Et c'est là qu'il y a de l'altérité. Regardez page 78. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Il est question du rapport entre la vertu et le bonheur. Diderot parle d'un type qui s'est très bien conduit au niveau familial. Et... Non, c'est pas Diderot, c'est moi. Il dit, voilà, j'ai l'exemple d'un type qui est revenu dans sa famille. Il a été formidable, il a marié ses sœurs, tout le monde a pleuré à la fin, c'est génial. Ça, c'est très drame bourgeois. Il y a beaucoup de pièces du drame bourgeois qui sont comme ça, avec plein de trucs très émouvants au niveau familial. Ça n'a pas très bien vieilli, le drame bourgeois. Ça a préparé le théâtre d'aujourd'hui. Mais en tant que tel, en fait, c'est un peu chiant. Et là, il semblerait que Diderot le comprenne, et il rebondit là-dessus, en fait, parce que Rameau se moque de lui. Voilà comment termine la tirade de moi. C'est les larmes aux yeux qu'il m'en parlait. Vous voyez, je vous disais, ça chitale partout. C'est des larmes aux yeux qu'il m'en parlait, et moi, je sens en vous faisant ce récit, mon cœur se troubler de joie et le plaisir me couper la parole. Rameau n'est pas du tout convaincu, il lui dit, vous êtes des êtres bien singuliers. Et moi, répond, vous êtes des êtres bien à plaindre. Si vous n'imaginez pas qu'on s'est élevé au-dessus du sort et qu'il est impossible d'être malheureux à l'abri de deux belles actions telles que celle-ci. Donc ça, c'est les belles actions qu'a accompli le type, qu'a marié ses sœurs, etc. Et ça continue. Rameau réplique. Voilà une espèce de félicité avec laquelle j'aurais de la peine à me familiariser, car on la rencontre rarement. Mais à votre compte, il faudrait donc être d'honnêtes gens Ça, c'est une question paradoxale, quoi, adressée à un philosophe. Évidemment qu'un philosophe défend l'honnêteté. Et moi, réponds, pour être heureux, assurément. Donc, c'est pas juste une histoire de vertu, c'est une histoire de bonheur. Pour être heureux, il faut être vertueux. Et Rameau reprend, cependant, je vois une infinité d'honnêtes gens qui ne sont pas heureux, et une infinité de gens qui sont heureux sans être honnêtes. Ça, c'était paradoxe. Et moi, réplique, il vous semble. Et n'est-ce pas pour avoir eu du sens commun et de la franchise un moment, que je ne sais pas où aller souper ce soir ? Donc ça, c'est parce qu'il s'est disputé avec le type qui lui donne à bouffer d'habitude. Donc, pour une fois, il a été honnête, vertueux et tout ça, et pas. En fait, il n'est pas heureux, du coup. Et il prend ça comme exemple du fait que le bonheur et la vertu, ça ne va pas forcément ensemble. Et moi, réplique, et non, c'est pour n'en avoir pas toujours eu. Donc, pour en avoir pas toujours eu du sens commun et de la franchise. C'est pour n'avoir pas senti de bonheur qu'il fallait d'abord se faire une ressource indépendante de la servitude. Lui, indépendante ou non, celle que je me suis faite est au moins la plus aisée. Moi, et la moins sûre, et la moins honnête. Lui. Mais la plus conforme à mon caractère de fainéant, de sot, de vaurien. Et là, d'accord, c'est le seul truc sur lequel ils peuvent s'accorder. Mais tout le dialogue est construit sur un désaccord, bien sûr. C'est extrêmement dynamique comme construction. Le désaccord, ça fait des dialogues très dynamiques. Le type qui a utilisé le plus ça ces derniers temps, c'est Alexandre Astier dans Kaamelott. Les meilleurs dialogues de Kaamelott, c'est les moments où ils s'engueulent, en fait. Où ils sont pas d'accord et où il y a du tac au tac. Là, on est presque dans Kaamelott, en fait, au niveau de la vivacité de la construction. C'est 18e, hein, donc ça envoie pas encore du bois comme dans les séries américaines. Mais il y a déjà cette espèce d'esprit d'à propos, quoi. Alors, ces deux choses-là dont je vous parle dans la construction du dialogue, l'esprit d'à propos, la contradiction, elles précipitent, elles atteignent une espèce de point de surchauffe qui font que le narrateur se met à avoir du mal, à, quand il rédige son dialogue, à faire la distinction entre ce qui relève du récit et ce qui relève du dialogue. Le dialogue est tellement vif que le narrateur a presque plus la place d'en placer une. Et le dialogue et le récit sont mélangés dans la construction des paragraphes. C'est un des traits stylistiques les plus innovateurs de Diderot. Regardez page 122. Alors, c'est le neveu qui parle de la nature. « Quand la nature fit Léo, Vinci, Pergolèse, Duny, elle sourit. Elle prit un air imposant et grave en formant le cher oncle Rameau, qu'on aura appelé pendant une dizaine d'années le grand Rameau, et dont bientôt on ne parlera plus. Quand elle fagota son neveu, donc là il parle de lui, quand la nature fagota moi, elle fit la grimace, et puis la grimace, et puis la grimace encore. » Et là, regardez bien, point virgule. En disant ces mots, il faisait toutes sortes de grimaces du visage. C'était le mépris, le dédain, l'ironie. Et il semblait pétrir entre ses doigts un morceau de pâte et sourire aux formes ridicules qu'il lui donnait. Cela fait blablabla, 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 et ça continue. Et il dit, c'est ainsi qu'elle me fit et qu'elle me jeta, à côté d'autres pagodes, les unes à gros ventre ratatiné, à col court, à gros yeux, blablabla, etc., etc. Là, le dialogue reprend. La tirade de Rameau reprend. Mais au milieu, il y a de la narration qui est venue se glisser comme ça. Et on ne sait pas toujours, tout de suite, qu'est-ce qui est quoi ? Qu'est-ce qui est du dialogue ? Qu'est-ce qui est de la narration ? Ça, c'est un tressage ultra moderne. Ça ressemble à des techniques d'écriture comme chez Cadio. Alors, Rameau, lui, il dit pas explosion du passé dans le présent ou ce genre d'expression slogan comme on en trouve chez Cadio. Il dit, pour caractériser sa manière de parler, cela va comme je te pousse. Page 110. Cela va comme je te pousse. Où il y a vraiment cette idée qu'il y a une espèce de mouvement violent, irrépressible. Il utilise une autre expression aussi, qui va nous mener encore plus loin. Page 120. Celle de ramage saugrenu. Il dit, j'ai une espèce de ramage saugrenu qui est entre les belles lettres et le langage des halles, c'est-à-dire le langage du peuple, quoi. Et ramage saugrenu, c'est hyper bien trouvé, pourquoi ? Parce que dans ramage, on entend rameau. Le rameau, c'est celui qui fait du ramage. Et le ramage, c'est quoi ? C'est un chant d'oiseau. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, il connaît tout ça, évidemment, Diderot. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Donc là, il a jamais autant rapproché son bonhomme d'une espèce d'oiseau, d'une espèce de merle. Qu'est-ce que ça fait un oiseau ? Ça chante. Ça chante pour communiquer. Or, les moments les plus géniaux du texte, c'est les moments où Rameau chante, parle, où on l'entend faire de la musique avec la bouche. Regardez page 64, c'est un petit exemple. Après, il y a plusieurs développements. C'est des moments incroyables. En même temps, il se met dans l'attitude d'un joueur de violon. Il fredonne de la voix un allegro de Locatelli, son bras droit imite le mouvement de l'archet, sa main gauche et ses doigts semblent se promener sur la longueur du manche. S'il fait un ton faux, il s'arrête. Il remonte ou baisse la corde, il la pince de l'ongle pour s'assurer qu'elle est juste. Il reprend le morceau où il l'a laissé, il bat la mesure du pied, il se démène de la tête, des pieds, des mains, des bras, du corps.
Comme vous avez vu quelquefois au concert spirituel, Ferrari ou Chiabran, ou quelque autre virtuose dans les mêmes convulsions, m'offrant l'image du même supplice et me causant à peu près la même peine. Car n'est-ce pas une chose pénible à voir que le tourment dans celui qui s'occupe à me peindre le plaisir ? Tirer entre cet homme et moi un rideau qui me le cache, s'il faut qu'il me montre un patient appliqué à la question. Au milieu de ses agitations et de ses cris, s'il se présentait une tenue, un de ces endroits harmonieux où l'archet se meut lentement sur plusieurs cordes à la fois, son visage prenait l'air de l'extase. Sa voix s'adoucissait, il s'écoutait avec ravissement. Il est sûr que les accords résonnaient dans ses oreilles et dans les miennes. Puis, remettant son instrument sous son bras gauche, de la même main dont il le tenait, et laissant tomber sa main droite avec son archet, « Eh bien, me disait-il, qu'en pensez-vous ? » Voilà, on est dans une espèce de moment où, à travers Rameau, Diderot, l'écrivain, derrière, approche le plus près possible sa langue de la musique. Ça swing, cette page. On entend un corps qui vibre, quoi. C'est plus seulement le violon qui fait de la musique, c'est tout le corps du neveu. Ça, à l'époque de Diderot, personne n'écrit comme ça. On ne sait pas d'où ça lui vient, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas d'où ça lui vient, à part de l'enthousiasme. Cet enthousiasme qui prête à son personnage ensuite. La variété, ça suffit pas au rythme. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il n'est pas prisonnier d'un discours, ça c'est sûr. Il n'est pas prisonnier d'un discours, donc d'une cadence, quoi. Il ne parle pas comme un mathématicien, ou comme un critique d'art, ou comme un philosophe. Il connaît tous ses discours. Donc il est libre par rapport au thème et par rapport au rythme aussi. Parce qu'un mathématicien ne parle pas comme un critique d'art. Ils ont chacun leurs habitudes. Il y a des manières de faire et de ne pas faire qui sont propres à chaque discipline. Et c'est vrai que Diderot, il est au-dessus. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, il ne se contente pas d'une espèce de pluralité, il trouve un rythme à lui. Pour moi, c'est ça le miracle, quoi. Je ne connais pas d'auteur qui écrit comme ça à l'époque. C'est la même surprise que Céline, toute proportion gardée, parce que Céline, c'est très spectaculaire, ça se voit sur la page, ça saute aux yeux que Céline, il a un style unique. Là, il faut entrer dans la chair du texte, il faut le lire, il faut le mâcher pour entendre cette rythmique. Là, pour moi, elle est aussi révolutionnaire que ce qui va se passer avec Céline au début du XXe, quoi. Alors là où c'est plus facile à aimer que Céline, c'est que chez Diderot, cette expérience formelle, elle n'est pas séparable d'une pensée philosophique, de l'univers et d'une manière d'y vivre, d'une possibilité pour y vivre. Alors que chez Céline, bah, on sait que autant la langue est vivante, pulsatoire, inventive, autant l'idéologie est nauséabonde et morte, quoi. Mortifère même. Chez Diderot, il y a une espèce d'adéquation incroyable entre le dire et le faire, entre la parole et son contenu. C'est aussi vivant dans le contenu, dans le propos qu'il tient, dans ce qu'il a à nous dire, que dans la manière de le dire. Chez Céline, c'est plus compliqué, quoi. Céline, c'est un type qui dit, ce serait comme une espèce de jazzman, c'est comme si Hitler parlait en swingant, quoi. Beaucoup plus compliqué. Donc j'en arrive à ce deuxième point, à ce que Diderot nous dit à travers le neveu, non plus comment il le dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit. Mais il nous parle de matérialisme, et de façon complexe, mais enthousiaste. Le mot enthousiasme, vous le rencontrez page 111, je vais m'y arrêter. Un matérialisme complexe mais enthousiaste, ce serait ça la deuxième grande chose que j'ai à vous dire là-dessus. Concernant le neveu, ce serait un dialogue satirique et un matérialisme complexe mais enthousiaste. Donc le matérialisme, un mot compliqué, un mot qui nous arrive chargé d'erreurs, de présupposés. Pour vous en parler de façon un petit peu précise, il faut que je remonte... Il faut que je fasse un minimum de biographie de l'histoire de Diderot. Diderot, c'est un type qui naît dans une famille chrétienne, comme toutes les familles à l'époque, à Langres, d'un père très vertueux qui était artisan, horloger, je crois. Et comme plein de fils de bonne famille, on le destine à la prêtrise. Donc, il est élevé dans le catholicisme et il monte à Paris, comme on dit, pour aller étudier la théologie en Sorbonne. Et puis, en fait, il va au théâtre. Et puis il tombe amoureux de plein de femmes, de quelques hommes aussi. Il y a des belles pages sur l'homosexualité dans Le rêve de D'Alembert. Le médecin finit par dire, Bordeaux, l'homosexualité, bien sûr, c'est naturel. Il n'y a rien hors de la nature. Il n'y a rien qui existe hors de la nature. On ne peut pas imaginer autre chose que la nature. Ce qui nous entoure, c'est la nature. Donc il n'y a rien en dehors de la nature. À l'époque, ils ne sont pas nombreux à dire ça. Donc au départ, il est catholique. Et puis il évolue, il devient déiste. C'est l'être suprême. Donc... Le déisme, c'est une espèce d'arrangement à minima avec Dieu, quoi. Il n'y a plus l'Église, il n'y a plus le dogme, mais il y a quand même une espèce de principe supérieur, spirituel, qui oriente tout. Donc ça, c'est la foi de Voltaire, c'est la foi de Rousseau. Alors Rousseau, lui, il donne un peu de chair à ça, parce que pour lui, c'est la nature. Dieu, il est dans la nature. C'est un principe supérieur, mais c'est pas juste un triangle avec un œil au milieu. Vous voyez, le truc des francs-maçons. C'est la moindre feuille qui vibre, quoi. Il y a Dieu là-dedans. Dieu, c'est la puissance vitale. Donc Diderot, il suit ce mouvement-là pendant tout un temps, mais il va plus loin que la plupart de ses collègues, notamment parce qu'il fréquente D'Alembert, parce qu'il fréquente des scientifiques, et il finit par dire « On peut concevoir la vie, l'univers, uniquement avec de la matière. On n'a pas forcément besoin d'esprit. » Tous ses contemporains, la plupart de ses contemporains, disons, conçoivent philosophiquement les choses en termes dualistes. Il y a de la matière d'un côté, il y a de l'esprit de l'autre. Et l'esprit des esprits, c'est Dieu, quoi. Le grand principe qui oriente la matière, c'est Dieu. Il n'y a pas de vie de la matière sans un principe spirituel, Dieu. Ça, c'est à peu près la foi de Voltaire. Diderot dit, et les scientifiques de son temps derrière lui, non, la matière n'a pas besoin d'un principe extérieur à elle-même pour vivre. Il a parlé avec des biologistes, qui ont commencé à examiner des bacilles, qui n'ont pas trouvé de traces de l'Esprit Saint là-dedans, qui se rendent compte que ça vit tout seul par des principes chimiques. Bon. Donc c'est un des premiers, Diderot, qui n'est pas scientifique. C'est pas un scientifique, c'est un vulgarisateur. Donc c'est un des premiers, disons, philosophes à dire « Ok, on peut imaginer les choses sans Dieu. » Mais ce qui est intéressant avec Diderot, c'est qu'il va faire des tirades, il va faire un peu de satire à l'égard des catholiques, mais il est très apaisé. Il va pas dire « Ils ont tort. » Et c'est vraiment des idiots. Il va dire, je vous propose une possibilité. Je vous avance une possibilité. On peut concevoir les choses matériellement, et purement matériellement. L'objet du rêve de D'Alembert, c'est ça. Ce que rêve D'Alembert, c'est une espèce de rêverie géniale sur le cosmos, qui n'est fait que de matière, mais c'est une matière pétillante, c'est pas du tout une espèce de boue informe. C'est très construit, c'est très chatoyant. Le rêve de D'Alembert, c'est un très beau texte. Il y a une espèce de mystique matérielle, en fait, dans le rêve de D'Alembert. Il y a un rêve que, en fait, on n'a pas besoin de Dieu pour concevoir les choses, mais on n'a pas non plus besoin de Dieu pour avoir des émotions mystiques. On peut avoir des émotions mystiques dans la matière. Ça fait penser à un texte que Leclésio écrira beaucoup plus tard, qui s'appelle l'extase matérielle. L'extase, qui est un truc plutôt spirituel, se passe dans la matière. La grande différence entre le rêve et le neveu, c'est que le rêve est donc une affirmation tranquille, joyeuse, amusante, sous la forme de dialogue courtois, de cette profession de foi matérialiste. Le neveu, c'est plus complexe. C'est écrit à une période de la vie de Diderot où il est torturé, en même temps sujet à des accès de joie plus forts. Il est plus maniaco-dépressif. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Parce que Rameau, son bonhomme, il illustre plutôt le sens du matérialisme tel que nous on l'a reçu aujourd'hui, c'est-à-dire un sens critique. Quand on dit de quelqu'un que c'est un matérialiste aujourd'hui, c'est pour dire il aime sa télé, sa bagnole, il se repaît de plaisir bas, vil, pas intéressant. Et le neveu, il est comme ça, hein. Enfin, il dit des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'il dit pas que ça. 75, il nous dit « Tenez, vive la philosophie, vive la sagesse de Salomon, boire de bon vin, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes, se reposer dans des lits bien mollets, excepté cela, le reste n'est que vanité. » On entend l'Ecclésiaste, « vanitas vanitatis ». Donc oui, c'est un des sens de matérialisme, ça. Aimer, quoi, c'est la gauloiserie. Mais il y a d'autres moments où le neveu ne parle pas. Quand il arrête de parler, en fait, c'est le moment où il est le plus intéressant. Il y a des moments où il est dans l'extase matérielle, où il sort de cette conception négative du matérialisme pour se hisser là où Diderot, je crois, place ses convictions, c'est-à-dire une possibilité de bonheur intense. Le matérialisme pour Diderot, c'est ça. C'est une manière d'exister dans l'univers qui est heureuse, qui est dépourvue de culpabilité et qui permet même d'accéder à des états de corps qui sont comparables à ceux du plaisir sexuel, en fait. Parce que si on lit cette page 111 qui est tellement merveilleuse, on est entre la folie et le plaisir. C'est le moment où il se met à chanter, et c'est juste après l'endroit où il dit « Cela va comme je te pousse ». Il entassait et brouillait ensemble 30 airs italiens, français, tragiques, comiques, de toutes sortes de caractères. Tantôt avec une voix de basse-taille, il descendait jusqu'aux enfers. Tantôt s'égosillant et contrefaisant le fossé, il déchirait le haut des airs, imitant de la démarche, du maintien, du geste, les différents personnages chantant, successivement furieux, radouci, impérieux, ricaneur. Ici, c'est une jeune fille qui pleure, et il en rend toute la minauderie. Là, il est prêtre, il est roi, il est tyran, il menace, il commande, il s'emporte, il est esclave, il obéit. Il s'apaise, il se désole, il se plaint, il rit. Jamais hors de ton, de mesure, du sens des paroles et du caractère de l'air. Tous les pousse-bois, donc ceux qui jouent aux échecs, avaient quitté leurs échiquiers et s'étaient rassemblés autour de lui. Les fenêtres du café étaient occupées, en dehors, par les passants qui s'étaient arrêtés au bruit. On faisait des éclats de rire à entrouvrir le plafond. Lui n'apercevait rien. Il continuait, saisi d'une aliénation d'esprit, d'un enthousiasme si voisin de la folie qu'il est incertain qu'il en revienne. S'il ne faudra pas le jeter dans un fiacre et le mener droit aux petites maisons. En chantant un lambeau des lamentations de Jomélie, il répétait avec une précision, une vérité et une chaleur incroyables les plus beaux endroits de chaque morceau. Ce beau récitatif obligé où le prophète peint la désolation de Jérusalem, il l'arrosa d'un torrent de larmes qui en arrachèrent de tous les yeux. Tout y était, et la délicatesse du chant, et la force de l'expression, et la douleur. Il insistait sur les endroits où le musicien s'était particulièrement montré un grand maître. S'il quittait la partie du chant, c'était pour prendre celle des instruments qu'il laissait subitement pour revenir à la voix, entrelaçant l'une à l'autre de manière à conserver les liaisons et l'unité du tout. S'emparant de nos âmes et les tenant suspendues dans la situation la plus singulière que j'ai jamais éprouvée, admirais-je ? Oui, j'admirais. Étais-je touché de pitié ? J'étais touché de pitié. Mais une teinte de ridicule était fondue dans ses sentiments et les dénaturait. Bon, encore une page pré-Cadio, pré-Céline, quoi. Ça pourrait même faire un travail sur la répétition qui nous amènerait à Gertrude Stein, avec les il du milieu du texte. Le mot-clé là-dedans, c'est l'enthousiasme. Cet enthousiasme que j'ai placé dans le titre de mon deuxième point. L'enthousiasme, traditionnellement et étymologiquement, c'est le fait d'être investi par un dieu. Entheos, ça veut dire le dieu dedans. Vous êtes enthousiaste ? Bon, au sens commun, ça veut dire que vous êtes plutôt motivé, etc. Mais au sens propre, ça veut dire que vous êtes investi par un dieu. Et sous la plume de Diderot, c'est pas rien d'utiliser un terme pareil. Mais là, c'est pas un dieu qui investit le neveu. Alors, est-ce que c'est de la folie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est son corps. C'est son corps qui s'auto-alimente et qui s'auto-échauffe. Il utilise le terme de chaleur, Diderot. Le corps dégage un souffle et une chaleur qui ne sont plus la seule propriété de l'esprit. Ça, pour un dualiste, c'est une scène qui ne serait concevable que par l'arrivée soudaine de l'esprit dans le corps. Et là, ce que met Diderot en scène, c'est que le corps s'enthousiasme tout seul. Il en est beaucoup question du corps du neveu. Il en est question pour nous dire au moins deux choses. Il est question du corps du neveu pour nous dire d'abord « mon personnage est fait de chair et d'organes ». Il est question du corps du neveu pour l'ancrer dans la matière. Dès le départ, il est question de ses formidables poumons, dans l'introduction narrative du dialogue, avant même que le neveu ne prenne la parole. Je crois qu'il met Dieu en plus. Dieu, quel terrible poumon. Il est à peine question de rameaux qu'il est déjà question d'organes. Plus loin, pour désigner les poumons également, page 83, moi utilise le terme de viscère. Viscère. Où là, on est clairement dans le médico-biologique. Et pour me donner une juste idée de la force de ce viscère, il se mit à tousser d'une violence, à ébranler les vitres du café et à suspendre l'attention des joueurs d'échecs. Il est également question, page 124, des fibres de son corps, de son poignet, et du fait que ce genre de talent, comme ceux de musicien, ne s'hérite pas comme s'hérite la noblesse. Il n'en est pas des talents comme de la noblesse. Alors ça nous permet de comprendre pourquoi il a choisi d'appeler son bonhomme le neveu de Rameau, et pas Jean-François, ou Jean-François Rameau. Quand il dit le neveu de Rameau, il dit quoi ? Il nous dit, c'est un héritier biologique. Il y a évidemment une construction culturelle de la famille, les singes n'ont pas de neveu, ou d'oncle. Et pourtant, chez les singes aussi, il y a des héritages biologiques, depuis le frère de la mère, jusque au fils de la sœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le frère de la mère, c'est l'oncle, le fils de la sœur, c'est le neveu. Il y a une filiation physique. Dire le neveu de Rameau, c'est dire le dépositaire d'un capital génétique. On dirait ça comme ça aujourd'hui. Cette représentation du corps, elle culmine dans le moment final, qui est comme le bouquet de feu d'artifice, et qui est ce moment de pantomime hallucinant, où on voit le neveu faire ça, quoi. Mais sauf qu'on n'a pas d'image. C'est par l'écriture de Diderot qu'on le voit prendre des postures incroyables, des mimiques, où il suggère des tas d'émotions. Cette pantomime, elle sert à la fois à ça, à culminer dans la représentation du corps révolutionnaire du neveu, et elle sert aussi à autre chose, cette pantomime. Elle sert à la deuxième chose dont le corps est l'objet dans le neveu. Le neveu de Rameau nous est présenté comme un corps au sens où il est planté dans sa chair, il est organique, il a des viscères, mais il est aussi présenté comme un corps au sens où un corps est une espèce de réceptacle pour la société. La pantomime, c'est le moment où le corps de Rameau n'est plus un individu. C'est le moment où le corps de Rameau est traversé par une foule. Il y a une foule à travers Rameau. D'un seul coup, Rameau n'est plus le neveu de quiconque, c'est un anonyme. Tellement anonyme qu'il y a une foule qui le traverse. Il peut ressembler à tel, à un tel, il imite truc, il imite machin. Il finit même par imiter sa femme, tellement il est personne. Donc le corps de Rameau nous sert à ces deux choses-là. Il sert à dire, on peut être un individu simplement par ses organes. On n'a pas besoin de conception spirituelle de l'individu pour croire à l'individu. Et en même temps, il nous dit, ah, l'individu, il a des frontières bien poreuses. Il est traversé par une foule. Il a les mimiques du charpentier, il a la démarche du boucher, c'est tout le monde et personne. Et là, on rejoint un autre grand principe des conceptions matérielles de Diderot, qui prolonge ce qu'on a dit tout à l'heure sur la satura. Si le neveu peut être parcouru comme ça par une multiplicité, par une foule, par des anonymes, c'est parce que la matière, c'est multiple. La matière n'est pas une. On dit la matière, mais c'est une facilité intellectuelle. Il n'y a que Dieu qui soit un, et ses déclinaisons que peuvent être l'État, l'individu, qui sont des conceptions nées de la même philosophie. C'est Aristote, tout ça. Aristote, revu par les chrétiens, pose que le monde est structuré par des entités uniques et pures. Un Dieu, un individu, un État, un roi. Mais la matière, c'est multiple. Et souvenons-nous que le texte commence sous les auspices d'Horace sur une espèce de bilan météorologique. Il est né sous la pire météo qui soit. Ça, c'est en gros la citation d'Horace. Et le texte de Diderot commence en disant « Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, je vais tous les jours à la Régence. » Donc on a l'impression que c'est Alain Gillot-Pétré, comme ça, qui vient faire un petit tour au début du texte de Diderot. En fait, c'est vachement profond. C'est pour nous dire, voilà, le temps varie tout le temps. En plus, il est parisien. Ici, ça varie aussi, mais à Paris, c'est terrible. Il peut faire les quatre saisons la même journée. C'est déjà une piste sur sa conception de la matière. La matière, ça change tout le temps. Et Rameau nous dit « Rien de stable dans ce monde » et nous dit plus loin la conséquence que ça a sur l'individu. « Que le diable m'emporte si je sais ce que je suis. » Donc, rien de stable dans ce monde, c'est la conception matérialiste des choses. Tout passe, tout casse, tout lasse. Dans le rêve de D'Alembert, c'est une vision plus positive des choses, plus simple. Là encore, le rêve est plus apaisé que le neveu. Diderot dit, par l'intermédiaire d'un de ses personnages, « Tout change, il n'y a que tout qui reste. » Mais là, le tout reste une sorte de matrice rassurante. « Tout change, il n'y a que tout qui reste. » Dans le neveu, c'est plus inquiet et plus enthousiaste en même temps. Puisqu'on va jusqu'à tirer les conséquences de cette conception de la matière comme quelque chose de multiple et de changeant, à savoir qu'il n'y a pas d'individu stable, et que le neveu n'est pas seulement maniaco-dépressif, il a aussi un côté schizo. Il a un côté multipersonnel, comme beaucoup d'acteurs, beaucoup de comédiens. Et là, moi, j'entends les bases de ce qui va être le développement très puissant que feront Deleuze et Guattari, fin du XXe siècle, sur la schizophrénie. La schizophrénie comme catégorie pour penser l'être humain, au départ, comme quelque chose de multiple et qu'on conditionne pour se rassembler dans un moi en partie artificiel. C'est pas un éloge de la schizophrénie, ce qu'ils font. C'est une catégorie pour essayer de repenser les choses. Et le neveu prépare déjà ça. Foucault sera sensible à ça, Foucault, grand collègue de Deleuze, puisque dans l'éloge de la folie, il fait une analyse formidable du neveu de Rameau en disant, voilà, dans l'histoire de la folie, le neveu de Rameau, il représente un passage très particulier. C'est le moment où la folie n'est plus simplement une catégorie antisociale comme d'autres maladies, telles les lépreux. On mettait les lépreux avec les fous à l'époque, les léproseries, c'était des lieux hors de la cité, etc. Foucault dit, non, là, la folie bascule avec le neveu de Rameau, ça devient autre chose. Ça devient une catégorie critique pour penser la rationalité. Le problème, évidemment, et je terminerai là-dessus, le problème, c'est l'œuvre. C'est que Diderot fait une œuvre. Il veut faire une œuvre. Et l'œuvre, c'est une des catégories, là, de l'unicité qui hante notre culture, comme Dieu, comme l'individu, comme l'État, comme le roi. La belle œuvre, bien fermée, bien terminée. La monade, comme dirait Leibniz. Bon, Diderot, il a des problèmes pour finir les bouquins. Je vous disais, il aime bien commencer des tas de trucs. Mais là, il veut le finir, son neveu. Et alors, c'est quoi le paradoxe? Ben, c'est de finir, de faire une belle petite unité à propos d'un truc qui parle que de multiplicité, de changements, de choses pas finies, à travers un personnage qui illustre tout ça, qui est plus ou moins raté, qui est un type qui n'arrive pas à faire d'œuvre. Donc comment est-ce que Diderot va réussir à résoudre ce truc? Moi, n'arrête pas de dire à lui, vous n'avez rien fait, pourquoi? Pourtant vous êtes doué, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pondu une partition? Mais en fait, c'est un dispositif génial, le neveu de Rameau, pour conjurer cette opposition entre l'œuvre qui doit être finie et l'éloge d'une espèce de matière labile, mouvante, multiple, etc. Et c'est à ça que sert le dialogue. À quoi sert le dialogue ? Il sert à kidnapper à l'intérieur d'une œuvre du multiple et du pas fini. Moi sert à kidnapper lui. Moi traduit dans une œuvre finie un personnage qui incarne ce qui ne peut pas être fini, ce qui ne peut pas être réduit à une chose, le neveu. C'est ça le tour de force du neveu de Rameau. C'est d'arriver à encapsuler dans une œuvre un éloge de la multiplicité. Et en fait, là, du coup, c'est là pour moi que le neveu prend son ampleur la plus grande, c'est qu'on retrouve là, et Diderot y pense évidemment, un des plus vieux problèmes des traditions textuelles qui sont au fondement des cultures. Qu'est-ce que c'est les dialogues de Platon dont on parle depuis le début ? Mais aussi, qu'est-ce que c'est les évangiles ? Mais aussi, qu'est-ce que c'est l'histoire de Bouddha ? C'est les fondements de nos cultures et c'est systématiquement des textes qui sont censés faire entendre une parole. Jésus n'a jamais écrit. Socrate n'a jamais écrit. Bouddha n'a jamais écrit. Et pourtant, ces textes nous sont arrivés comme textes. C'est des paroles qui nous arrivent par des textes. Ça, c'est un des grands problèmes que se posent les apôtres, que se pose Platon, que se posent les scribes de Bouddha. Comment on va faire pour transmettre cette parole avec ce truc tellement différent qu'est l'écrit ? Donc, Diderot se pose les mêmes questions techniques et il trouve une réponse géniale avec la parole musique. Il dit, moi je vais musicaliser l'écriture, comme ça, ça va vraiment sonner comme de la parole. Il a les mêmes problèmes techniques, mais je crois aussi, et ça c'est pour moi le mot de la fin, qu'il a la même ambition civilisationnelle. C'est-à-dire que pour lui, le neveu, c'est son Socrate, c'est son Jésus, c'est son Bouddha. Il y a une telle obsession dans la rédaction du texte qui s'étale sur des années, pour arriver à transmettre une parole sans la trahir, et il y a une telle attention à la puissance des arguments qui sont avancés par le neveu, que pour moi, c'est une espèce d'évangile matérialiste. Et ça, pourquoi est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui ? Parce que quelles que soient nos conceptions par rapport à la question de Dieu, on est dans une société qui est profondément matérialiste, pour le bien et pour le mal, au sens courant de matérialiste, au sens bagnole télé, mais aussi au sens technique. Au sens où, aujourd'hui, quand on a mal au crâne, on prend un médicament, quoi. On va chez le médecin. On ne fait pas appel aux forces de l'esprit, comme disait Mitterrand à la fin de sa vie. On fait appel à la matière. On passe par notre conception matérielle des choses, techniques, scientifiques. Que fait Diderot ? Il prépare l'avènement du matérialisme, qui est dans nos vies aujourd'hui, quoi, avec nos petites machines, avec la médecine. Mais en disant, c'est pas un dessèchement. C'est pas une rationalisation pauvre des choses. Et c'est pas non plus une plongée décadente dans la boue, dans le culte des objets. C'est pas seulement ça, les gars. Le neveu nous dit, il y a un enthousiasme, du plaisir à être de la matière. Je suis un corps heureux. Je suis des organes qui chauffent. Voilà, c'est ça que je crois Diderot essaie de, d'une certaine façon de prophétiser. Il y a une dimension de, oui, de prophétie, je crois, dans le personnage du neveu. Mais c'est un prophète suspect et admirable de ce matérialisme qu'échoua à notre civilisation. Parce que, contrairement aux évangiles, on ne dit pas que Jésus n'a pas ri, comme disait Umberto Eco, mais il n'est jamais question du rire de Jésus pour autant. Contrairement au sourire de Bouddha, qui n'est jamais un rire aux éclats, qui est une espèce de béatitude, dans Platon, c'est plus compliqué, il y a du rire même. Enfin, pour moi, le neveu de Rameau, c'est le seul texte prophétique qui ménage une telle place au ridicule, voilà. Qui laisse la possibilité au ridicule d'être. Alors que la plupart des textes de fondation d'une société commencent par éradiquer la question du ridicule en disant « Nous, fonder une société, ça va être sérieux. » Je crois que le ridicule, ça a à voir avec la violence. Ça a à voir avec le fait de dire « Il n'y a jamais de position sociale si stable qu'on ne puisse pas mourir socialement. » Un roi ne peut pas être ridicule. Un prêtre ne peut pas être ridicule. C'est des personnages sociaux qui construisent leur autorité sur le fait qu'ils ne peuvent pas être mis à mort. D'ailleurs, avec des constructions hallucinantes, jusqu'à dire que le roi est le descendant de Dieu, qu'il a deux corps, qu'il vivra toujours. Diderot, lui, il ménage la possibilité d'une vie sociale où le ridicule a de la place. C'est-à-dire où il n'y a pas de position qui ne soit pas relative. Comme en science, il n'y a pas de théorie qui ne puisse pas être mise en question un jour. Dans ce groupe social, il n'y a pas de position absolue. Je crois que c'est en ce sens-là que lui répondrait à la question du ridicule.